Le 18-20 commence par ce que vous devez savoir de cette journée du mardi 5 octobre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec une déflagration pour l'Église catholique.
Avec un rapport accablant, le rapport Sauvé rendu public ce matin et qui chiffre pour la première fois l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'institution française. 216 000 victimes mineures, victimes de religieux depuis 1950. Comment arrive-t-on à un tel chiffre vertigineux ? L'Église française est-elle plus à risque que d'autres institutions et d'autres pays ? Éléments de réponse en début de journal. À suivre aussi, suite de notre journée avec les Afghanes, vous en parliez avec le témoignage dans ce journal de notre reporter Valérie Crova de retour de Kaboul. L'impossible deuil de certaines familles au procès des attentats du 13 novembre. Des retrouvailles studieuses entre Paris et Washington après la crise des sous-marins australiens. Et puis la disparition des coraux qui s'accélère 14% de moins en une douzaine d'années.
18-20 spécial donc ce soir avec les Afghanes. La journée spéciale de France Inter continue tout à l'heure à partir de 18h15. Des témoignages de celles qui sont restées, de celles qui se sont enfuies depuis Kaboul, Kunduz ou Paris. Vous allez les entendre nous interpeller. Et puis à partir de 19h20, le téléphone sonne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce sont vos questions que l'on attend. Quel accueil pour ces femmes, pour qu'elles puissent garder contact, retrouver leur famille. Vous échangerez avec l'OFPRA, notamment avec des associations, avec Ayam Suro qui passe 2 heures avec nous. Et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un phénomène massif qui a été couvert pendant des décennies par l'Église de France.
Les abus sexuels au sein de l'Église catholique, après 3 ans d'un travail minutieux, douloureux, la commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé a donc dévoilé ses conclusions ce matin, dévastatrices pour l'institution religieuse. Le rapport fait état de 216 000 victimes agressées depuis 1950 par des membres du clergé alors qu'elles étaient mineures, et on ne parle là que des victimes encore vivantes, et ce chiffre monte même à 330 000 victimes, si l'on ajoute celles agressées par des laïcs qui travaillent avec l'Église. Et parmi ces victimes, l'une des voix qui les a incarnées ces dernières années, c'est François Devaux. On l'écoute.
Ce qu'il vous faut comprendre, messieurs, c'est que vous êtes une honte pour notre humanité. Vous avez piétiné par votre comportement l'obligation de droit divin naturel, de protection de la vie et de la dignité de la personne. Alors que c'est l'essence même de votre institution, vous devez payer pour tous ces crimes.
Voilà les mots terribles de François Devaux ce matin, cofondateur de l'association La Parole Libérée. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Alors pour bien comprendre la mesure de ce chiffre colossal, comment la commission l'a-t-elle établi ?
Eh bien, il a déjà fallu permettre aux victimes de libérer leurs paroles contenues parfois toute une vie. Au total, 10 000 ont saisi la commission d'une façon ou d'une autre. Alors comment est-on arrivé au nombre de 330 000 ? La commission a fouillé également les archives de la presse, des diocèses et mis en place une grande enquête en population générale, enquête menée par l'INSERM. Et cette étude apporte d'abord donc un éclairage cru sur l'importance des abus sexuels sur mineurs dans toute la société. 5,5 millions de personnes victimes, 14,5% de femmes, 6,4% des hommes. La part de ceux commis dans l'Église est importante, 6%. Si on met de côté la famille et le cercle amical, l'Église catholique est la première institution où sont commis ces crimes et délits. Le rapport estime même que le nombre de 330 000 est sans doute sous-estimé tant le silence limite la connaissance des cas, que ce soit chez les victimes, l'entourage et tant l'institution a été indifférente aux victimes, une indifférence coupable comme l'a dit Jean-Marc Sauvé.
Ce n'est pas la première fois, la première commission de ce type qui travaille sur les abus sexuels au sein de l'Église. Rémi, comment la France se situe-t-elle par rapport à d'autres pays ?
Eh bien la CIAZ a comparé son travail avec ceux de commissions analogues à l'étranger, en Irlande par exemple en 2009 ou en Allemagne en 2018, où des chercheurs avaient estimé à 3677 le nombre de victimes depuis la fin de la guerre. En Australie, en 2017, 4444 cas d'abus, bien en dessous donc des 216 000 en France. Mais peu de pays ont lancé une enquête en population générale, comme en France. Un point de comparaison, tout de même, les Pays-Bas, avec des estimations comparables à la France. Quant à la part des agresseurs parmi les religieux, le rapport en France l'estime à 2,5 ou 2,8% des effectifs de l'Église. C'est moins que les 4 à 7 7% des rapports étrangers. Mais la commission Sauvé estime difficile de dénombrer les prédateurs. Le nombre de 2900 à 3200 est vraisemblablement fortement sous-estimé.
Rémi Brancato, merci. Ce rapport a bien sûr fait l'effet d'une bombe au cœur de l'institution religieuse. Le pape a exprimé son immense chagrin face à ce qu'il décrit comme une effroyable réalité. En France, le président de la conférence des évêques, Monseigneur de Moulin-Beaufort, parle de honte, d'effroi et demande pardon aux victimes. Un effroi partagé par des dizaines de prêtres qui tiennent à prendre la parole aujourd'hui, à l'image de ce curé, le curé de Saint-Potin à Lyon, Patrick Guerre.
J'étais extrêmement bouleversé, je pleurais devant mon écran tellement c'était douloureux et difficile à entendre. Et d'avoir des témoignages, avec au départ les victimes et puis ce qui nous a été dit, c'est affligeant. Évidemment, on ne s'y attendait tellement pas à cette ampleur de ce chiffre, on n'osait pas imaginer. Enfin, et c'est dramatique, parce qu'il y a tellement de victimes derrière, tellement de victimes, tellement de souffrances. C'est tellement fou. Et c'est vrai que je me dis, enfin elles sont reconnues, enfin on parle d'elles, enfin celles qui n'osent pas encore parler se disent « je suis dans ce chiffre » et on pense à moi et on réalise l'ampleur du cataclysme. Les gens qui n'en peuvent plus, certains qui sont, on sait, hein, ont arrêté de vivre à cause de ça, des familles entières qui souffrent de ça, c'est... Premier que je pleurais devant mon écran tellement c'était douloureux.
Patrick Guerre, représentant des prêtres du diocèse de Lyon avec Christophe Vincent. Mais ces paroles, ces appels au pardon suffiront-ils à apaiser la douleur des victimes? Les victimes qui demandent désormais des actes et qui demandent une indemnisation financière, c'est l'une des principales recommandations du rapport. La commission écarte la piste d'un appel aux dons des fidèles et préfère retenir celle d'un paiement des indemnités à partir du patrimoine des agresseurs et de l'Église de France. On revient en détail sur toutes les recommandations du rapport dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Ils ont fui Kaboul parce qu'ils jouaient de la musique.
Plus d'une centaine d'étudiants et de professeurs de l'Institut National de Musique ont en effet quitté la capitale afghane ce week-end, direction Doha au Qatar, de peur d'être l'objet de représailles des talibans. Parmi ce groupe de musiciens, de jeunes musiciennes, de jeunes femmes qui fuient l'emprise des fondamentalistes. Vous l'entendez depuis ce matin sur l'antenne, France Inter a décidé de donner la parole à ces Afghanes qui vivent aujourd'hui sous le joug des talibans. Bonsoir Valérie Crova.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter à la rédaction internationale. Vous revenez de plusieurs jours passés sur place à Kaboul. Depuis ce matin, on a entendu plusieurs de vos reportages sur ces femmes restées là-bas. Alors, comment avez-vous travaillé sur place pour recueillir leurs témoignages?
Alors, d'abord, il faut savoir que ces jeunes femmes sont très actives sur les réseaux sociaux. Donc, c'était assez facile de prendre contact avec elles. Ce qui était un peu plus compliqué, c'était de trouver un endroit où elles se sentent en sécurité. Alors, le plus souvent, on allait dans un centre culturel de Kaboul, qui est assez réputé parce qu'il accueillait de nombreux artistes et intellectuels afghans avant le retour des talibans. C'est aussi un lieu de rencontre où des jeunes couples viennent boire un café ou un thé. Pour l'instant, les talibans le tolèrent. C'était le bon endroit pour discuter librement avec ces jeunes femmes qui ont envie de faire savoir au monde entier ce qui se passe dans leur pays.
Et justement, ces femmes afghanes étaient-elles désireuses de prendre la parole?
Oui, elles veulent qu'on sache que les talibans n'ont pas changé, qu'ils ont toujours la même idéologie qu'il y a 20 ans en arrière, même s'ils tentent de donner une image rassurante à la communauté internationale. Les Afghanes de la jeune génération sont persuadées du contraire. L'une d'entre elles me disait que sa mère les a testées par le passé, qu'elle savait de quoi ils sont capables et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Cette jeune femme avait besoin de partager son inquiétude.
Et puis il y a une femme, Valérie, qu'on a entendue ce matin sur notre antenne à 8h, qui vous a beaucoup marqué, Soudaba Kabiri, une étudiante. Pour quelles raisons son témoignage est-il important à vos yeux?
Et bien parce qu'elle a fait le choix de rester en Afghanistan alors que beaucoup d'activistes ont quitté le pays. Elle sait qu'elle prend des risques importants, mais elle les assume. Si tout le monde part, qui portera la voix des femmes afghanes, m'a-t-elle expliqué. Elle est courageuse parce qu'elle a manifesté à plusieurs reprises contre le retour des talibans avant que ces derniers n'interdisent les manifestations. Ce qu'elle dit des fondamentalistes est brut de décoffrage. Elle les trouve grossiers, misogynes, ils sont incapables de gouverner un pays, dit-elle. Elle demande aussi à la communauté internationale de ne pas leur accorder de reconnaissance tant qu'ils ne respecteront pas les droits des femmes afghanes.
Merci Valérie Crova. De retour de Kaboul, l'un de vos témoignages à retrouver juste après ce journal dans Un jour dans le monde avec vous, Fabienne.
Direction le palais de justice de Paris avec de nouveaux témoignages de victimes des attentats du 13 novembre 2015.
Et notamment les témoignages des proches des victimes de la terrasse de la Belle Équipe. 21 morts le soir des attentats. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
À la barre, Charlotte, des familles entières pour qui le deuil est aujourd'hui encore impossible.
Khaled se présente à la barre. Je suis née au Creusot en 88 dans une famille de 8 enfants, une famille pauvre. Nos parents sont analphabètes. Alors, l'éducation se faisait entre frères et sœurs, explique-t-il. Parmi ses sœurs, Halima, mère de 2 très jeunes enfants, assassinée à la Belle Équipe. Et puis Oda, l'aînée, celle qui fêtait ses 35 ans ce jour-là, celle qui tenait la famille, payait les vacances, raconte Khaled, le pilier comme Messi pour l'équipe de Barcelone. Après la mort de ses sœurs, pour Khaled, ça a été la dégringolade, dit-il. Pour Grégory aussi, c'est l'histoire du deuil impossible de Justine, sa compagne, qu'il est venu confier ici. Sa colère immense, sa haine, on les sent d'ailleurs sur le point de déborder, mais il a promis à ses proches de rester dans les clous. Alors il raconte plutôt Justine et son sourire, la force, le cadre qu'elle apportait. « Je dors sur le canapé depuis 6 ans », confie-t-il. Leur appartement est intact. Tout comme la chambre de Victor chez ses parents, comme les dessins et les vêtements d'Anne-Laure, soigneusement rangés dans une armoire, raconte son père. Parce que, reprend Khaled, la souffrance, monsieur le président, cela dépasse la raison.
Charlotte Piret, avec les moyens techniques d'Hélène Langlois en direct du Palais de Justice de Paris. La France et les États-Unis sont-ils sur le chemin d'un rabibochage? Le choc de l'affaire des sous-marins australiens reste dans toutes les têtes, mais pour la première fois aujourd'hui, le patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré le chef de l'État, Emmanuel Macron. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Sébastien.
Cette visite n'est qu'un début, on est encore loin, très loin d'avoir retrouvé une relation de confiance. Hein.
Oui, les récriminations de la France à l'encontre des États-Unis sont terminées, mais la réconciliation attendra les actes demandés à Washington. Voilà ce qui résume la visite à Paris d'Anthony Blinken, reçue comme prévu par Jean-Yves Le Drian et de façon plus surprenante par Emmanuel Macron. Cette deuxième rencontre n'était pas annoncée. Le secrétaire d'État devait initialement voir le conseiller diplomatique du président. Preuve de l'importance que Paris accorde à la brouille franco-américaine. Pour autant, il n'était pas question aujourd'hui de grandes retrouvailles ni d'effusions publiques ou de conférences de presse. Un long tête-à-tête pour restaurer la confiance, dit l'Élysée. Trois demandes formulées par la France le 22 septembre lors de l'entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Joe Biden sont au cœur du travail désormais engagé. La reconnaissance du rôle de la France et de l'Union européenne dans la zone Indo-Pacifique, ce qui permettrait une coopération malgré l'affaire des sous-marins. Il faut aussi que les États-Unis admettent la nécessité d'une défense européenne complémentaire de l'OTAN. Enfin, l'engagement de Washington à renforcer la lutte antiterroriste au Sahel. Les présidents français et américains doivent se rencontrer à la fin du mois en Europe, où ils participeront au G20 à Rome.
Bertrand Galichet, merci.
Les coraux sont dans un état de santé préoccupant.
Les océans ont perdu 14% de ces récifs coralliens depuis une douzaine d'années. C'est ce que révèle le dernier rapport publié aujourd'hui par le réseau mondial de surveillance des récifs coralliens en cause. Surpêche, pollution et réchauffement climatique, Sandy Dauphin.
Cette disparition des coraux touche notamment les Caraïbes, l'Australie, le sud-est de l'océan Indien ou encore la mer Rouge et le golfe Persique. 300 chercheurs ont analysé les données provenant de 12 000 sites dans 73 pays. Principale cause du déclin observé depuis 2009, le réchauffement climatique. La hausse des températures de surface de la mer provoque des épisodes de blanchissement des coraux. Serge Plan, directeur de recherche au CNRS, est l'un des co-auteurs du rapport.
Ce qui est nouveau dans ce que l'on observe, c'est que jusqu'à présent, dans les années 80-90, quand il y avait eu des pertes, on avait de la récupération, notamment après le gros événement El Niño de 98, on a eu une récupération qui a pris à peu près une dizaine d'années. Aujourd'hui, on n'observe pas de récupération et donc c'est plus inquiétant. Clairement, l'impact du réchauffement climatique est dominant dans ce déclin des récifs coralliens. Il n'y a plus assez de temps pour que le récif, entre deux vagues de chaleur, récupère.
Seule note d'optimisme, la région du sud-est asiatique, Philippines, Indonésie, Thaïlande, est relativement épargnée, ce qui laisse espérer que dans certaines zones, les coraux résistent et s'adaptent mieux au changement climatique.
Sandy Dauphin, le Goncourt change ses règles. Plus question de rendre éligibles au célèbre prix les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury. C'est la suite de l'affaire révélée par France Inter, la révélation des liens entre François Noudelman, retenu dans la première sélection, et sa compagne Camille Laurence, un membre de l'Académie. François Noudelman qui est donc écarté de la deuxième sélection du Goncourt.
Merci beaucoup Sébastien, à demain. Dans un instant, je vous emmène à Kaboul, à Kunduz, à Paris avec les femmes afghanes que France Inter est fière aujourd'hui de mettre à l'honneur. Et puis vous pouvez participer à partir de 19h20 dans le téléphone sonne. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, à notre niveau? Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces femmes qui sont arrivées parfois sans leurs enfants et qui demandent l'asile? 01 45 24 7000. L'œil sur le ciel avec Élodie Calac.
La météo avec Euromaster. toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et un temps plus ensoleillé demain, Elodie.
Oui, sur le Nord-Ouest jusqu'au bassin parisien et au Pas-de-Calais, on aura le soleil qui s'imposera rapidement le matin. Pareil en Méditerranée, avec du vent assez fort. Entre le Sud-Ouest, les Alpes, la frontière belge et le Nord-Est, là, pas mal de nuages le matin avec quelques averses résiduelles. Les éclaircies reviendront pour l'après-midi, sauf des frontières du Nord au Nord des Alpes. Là, ça restera encombré. Et puis, il fera un petit peu frais, Fabienne. 14 degrés à Lille, à Aurillac, 16 à Lyon, 17 à Paris et à La Rochelle, 19 à Rennes et 23 à Nice.
Élodie Calac, merci beaucoup.